Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Que vaut l'économie du sport en Afrique ? Nous reparlons du sujet à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 qui viennent de se lancer à Paris. Nous évoquons ce sujet donc dans votre rubrique Zoom Express. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Comment se portent les entreprises africaines? Comment évolue leur chiffre d'affaires? Quels sont les secteurs qui carburent dans le business en Afrique? Et surtout, quel rang pour les grands groupes marocains sur la scène continentale? Notre invité, Julien Wagner, vous donnera tous les détails et ce sera dans quelques minutes. Puis nous irons en Afrique du Sud retrouver François Conradi. Avec lui, nous allons parler de l'évolution de l'économie sud-africaine et les moyens de faire du business avec les entreprises marocaines. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Que vaut donc le sport sur le continent? Nous parlons donc de ce sujet à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 qui viennent de se lancer à Paris et nous avons le plaisir de recevoir Will Mbiakop qui vient de sortir un ouvrage sur le sujet. Alors, Will Mbiakop, merci d'avoir accepté notre invitation. La question est toute simple, bien évidemment. Que vaut le sport en Afrique?
Alors, le sport en Afrique, économiquement parlant, ne vaut pas le talent extraordinaire que l'Afrique a produit depuis des décennies pour faire rayonner l'économie du sport mondial, qui est aujourd'hui de 2 à 3% du PIB mondial. Donc on pense bien entendu à Hicham El Guerrouj qui vient du Maroc, mais bien entendu Didier Drogba au football, Samuel Eto'o, Mo Salah, Sadio Mané, etc., etc. Donc des grands talents qui ont contribué à faire que des grands clubs mondiaux, hein, Chelsea, je pense aussi à la NBA avec Joel Embiid, etc., etc. Toutes ces grandes ligues ont généré d'énormes revenus, des milliards de dollars de revenus, mais malheureusement en Afrique aujourd'hui, c'est à peu près 0,5% du PIB africain, donc c'est absolument minuscule et pas à la hauteur de l'incroyable talent africain au niveau sportif, mais également de l'énorme marché que représente l'Afrique, un marché de 1,4 milliard de personnes.
C'est important à noter, donc retenez bien ce chiffre, hein, le sport en Afrique équivaut pour le moment à 0,5% du PIB du continent, ce qui en dit long sur le potentiel de développement de cette industrie. Justement, comment développer le sport africain, comment le rendre plus rentable, Will Mbiakop?
Écoutez, il y a plusieurs éléments à considérer. Nous, au sein de l'Institut et en partenariat avec Mazars, nous avons développé un survey, donc une enquête d'opinion auprès de 2000 acteurs de l'écosystème du sport africain. On leur a donné la parole en leur demandant quel est l'état de lieu, quels sont les challenges, mais également quelles sont les opportunités que vous voyez au sein de l'écosystème. Alors, ce qu'on apprend, c'est que, grand 1, on a absolument besoin de davantage de data. Donc la donnée est absolument manquante. On a besoin de davantage de data pour comprendre notre environnement, c'est-à-dire qui consomme le sport, quand est-ce qu'il le consomme, comment il le consomme, comment il le pratique également ce sport-là, à quelle hauteur, sur quel segment. Donc la première chose, c'est absolument avoir besoin de davantage de data, de données. La deuxième chose, vous savez, l'Afrique, l'atout numéro un de l'Afrique, c'est son capital humain. Cependant, aujourd'hui, le capital humain n'est pas formé. Donc, on a absolument besoin de développer davantage de compétences, de faire en sorte qu'on ait des formations meilleures en sports management pour faire en sorte que demain, nous ayons des gens qui soient compétents à la direction du sport. La troisième chose dont on a besoin, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que le sport est un business. Donc faire en sorte qu'on comprenne que le sport est un produit marketable et un produit rentable. Et donc il faut absolument monétiser le sport. Et casser le prisme qui est le suivant, à savoir l'économie du sport est absolument basée sur la compétition professionnelle. Ça, c'est un prisme qu'il faut absolument oublier. La compétition professionnelle est absolument importante. Les méga-events, ce qu'on appelle les Jay-Z, les grands événements sportifs internationaux comme la Cannes, par exemple, sont absolument nécessaires et c'est fabuleux. Maintenant, l'économie du sport en Afrique est basée sur la consommation et la pratique quotidienne du sport par les ménages. Donc je le redis une deuxième fois parce que c'est extrêmement important. L'économie du sport est absolument basée sur la consommation et la pratique du sport au quotidien par les ménages. Alors, c'est là le fondamental de l'économie.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, la pratique du sport au quotidien par les ménages et la consommation? Explicitez, William Biakor.
Bien sûr, avec grand plaisir. Écoutez, quand vous savez qu'on a des sportifs amateurs qui vont faire leur sport au quotidien, donc pour faire votre sport, vous allez avoir besoin de chaussures. Vous allez avoir besoin de chaussettes, vous allez avoir besoin de shorts, de t-shirts. Donc tout ça, déjà, c'est une industrie qu'on appelle le merchandising. Et si on étale un peu plus loin, vous allez avoir peut-être besoin d'équipements, de ballons, de plots, des cages de football. Donc tout ça, c'est une industrie qui peut générer de l'argent et auquel il y a beaucoup de jobs. Il va y avoir besoin d'un designer, de quelqu'un au niveau marketing, de quelqu'un au niveau du manufacturing pour produire ces produits-là. Donc ça, c'est la pratique du sport. Et là, je n'ai même pas mentionné toute la partie sport tech, donc avec notamment les montres qui sont rattachées à votre poignet et qui vont mesurer les battements de votre corps, votre pouls, et comprendre combien de calories vous avez brûlé quand vous avez pratiqué votre sport. Mmh. Et bien entendu, cette pratique sportive est au sein d'un club, et ce club vous vend un membership, donc vous êtes membre, une licence pour pouvoir faire votre sport. Et ça également, ce sont des transactions économiques qui ont une valeur. Donc ça, c'est la pratique du sport. Au niveau de la consommation du sport, écoutez, c'est par exemple tous les fans qui vont aller voir un Raja jouer au football, par exemple. Donc ça, c'est la consommation du sport. Donc il va y avoir des tickets, il faut acheter des tickets pour entrer au match. Quand vous êtes au match, vous allez peut-être avoir soif et vous allez avoir envie de manger. Donc ça, c'est à nouveau une transaction économique qui vaut de l'argent. La consommation du sport, c'est également le gaming. Vous savez, le gaming au niveau mondial, c'est un peu moins de 200 milliards de revenus, et à l'intérieur du gaming, il y a bien sûr le e-sport, qui est la compétition, si vous voulez. Donc le gaming, c'est la pratique de jouer aux jeux électroniques, et le e-sport, c'est la compétition qui s'avère être professionnelle. Donc ça, c'est également de la consommation du sport. C'est également acheter les jerseys ou les maillots de vos équipes préférées, qu'elles soient les équipes nationales ou les équipes de club. Donc voilà, tout cet ensemble d'activités, se constitue un ensemble de transactions économiques qui valent de l'argent. Et je n'ai pas parlé, bien entendu, du tourisme sportif. Nous sommes au Maroc, un grand pays de tourisme. Le Maroc accueille sur les prochaines années une série extraordinaire d'événements sportifs, que ce soit la Cannes en 2025, et bien entendu en 2030, la Coupe du Monde. Et bien, tout ça implique un appel d'air extraordinaire en termes de besoins de staffing. Donc on a besoin de gens qualifiés pour répondre à ces événements-là. Et ça appelle également un énorme besoin d'hospitalité, parce que ça va être des millions et des millions de gens qui vont venir visiter le Maroc pour voir le football, mais également pour comprendre et être plongés dans le fabuleux hospitalité marocaine.
Que ce fut un plaisir de vous écouter, Will Biakop. Je rappelle que vous êtes donc expert en économie du sport. En tout cas, vous nous avez donné l'envie non seulement de faire du sport, mais aussi d'investir le domaine du sport en tant qu'investisseur. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence, Will Biakop. Et certainement, avec tous les rendez-vous sportifs qui se profilent à l'horizon, on aura le plaisir de vous réécouter à nouveau dans Coémergence.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Will Biakop. Je rappelle que vous venez de publier un ouvrage donc sur le sujet « Le sport, l'économie du sport en Afrique ». Merci d'avoir accepté notre invitation.
Destination Éco.
Direction l'Afrique du Sud pour parler économie. Et pour cela, nous avons le plaisir de retrouver François Conradi, économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Avec lui, nous allons donc faire le point sur l'état de l'économie sud-africaine et les moyens de donner un déclic aux relations économiques avec le Maroc. Bonjour à vous, François Conradi.
Bonjour Omar.
Alors, on y va directement à l'essentiel. Comment va l'économie sud-africaine au lendemain de ces élections?
En général, pas très bien. Donc, il y a la demande intérieure est assez faible. C'est une économie où la transmission de la politique monétaire fonctionne assez bien. Et le taux directeur de la Banque centrale est élevé à 8,25%. Cela pour contrer l'inflation qu'on a vue depuis début 2022. Et cela freine la demande intérieure et ça a des effets sur les investissements, etc. Il y a certainement aussi eu un effet d'incertitude de la part des investisseurs qui attendaient de voir le résultat des élections. Donc pour ces raisons, et surtout la demande intérieure, il y a une croissance faible. Donc notre prévision à nous est d'une croissance du PIB de 0,7% en 2024. Et la demande intérieure est la raison pour cela. Plus positivement, les délestages sont beaucoup moins que dans les années précédentes. Donc l'Office de l'électricité, ESCOM, a pu terminer certains projets de maintenance qui freinaient la provision d'électricité. Et maintenant que cela est terminé, on a moins de délestages qu'avant.
Donc, moins délestage qu'avant, mais des perspectives, disons, une situation économique qui n'est pas au meilleur de sa forme. Alors, cela dit, et on le dit souvent avec le Maroc, comment enfin donner un déclic aux relations économiques, sachant que on a des investissements quand même assez colossaux. On le rappelle souvent, Saham qui est entré dans le giron de Sanlam, entre autres. Il y a Anfa Place aussi, ici à Casablanca. Alors, comment donner enfin un déclic à ces relations économiques avec le Maroc, François Conradi?
Cela tient à des décisions politiques. Cela n'a pas empêché certaines transactions dont vous venez de parler. Donc, il est possible qu'ici et là, de manière tentative, presque expérimentale, les autorités peuvent se mettre d'accord sur des grands investissements, mais pour des relations vraiment décomplexées, il faudrait un changement de la part de la politique sud-africaine. Voilà, c'est surtout ça.
Mais sentez-vous une envie des hommes d'affaires de commercer, une envie d'échanger, une envie de co-investir?
Oui. Les contacts entre les professionnels sont très bons, se passent très bien. Il y a des projets qui peuvent se faire et qui se font aussi. Mais les grands projets, disons, où il y a un volet diplomatique et politique dedans, ça risque de demeurer compliqué.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Omar.
Coémergence, l'invité.
Je vous le disais en titre, les plus grandes entreprises africaines se portent plutôt bien, en tout cas vu le contexte actuel marqué par des turbulences et surtout au regard de leur chiffre d'affaires record réalisé en 2023. Il a atteint 760 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 14%. C'est ce que révèle le classement 2024 du top 500 des plus grandes entreprises africaines. Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Julien Wagner. Il est journaliste à Jeune Afrique et l'un des auteurs du classement annuel des 500 premières entreprises publiées donc par Jeune Afrique. Avec Julien Wagner, nous allons aussi parler du classement des entreprises marocaines donc dans ce top 500 africain. Bonjour à vous, Julien Wagner, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar et bonjour à tous.
Alors, tout d'abord, que retenir de ce classement 2024 du top 500 africain?
Donc d'abord, je voudrais rappeler un aspect méthodologique pour nous permettre de comparer les chiffres d'affaires de toutes les entreprises africaines. On se base sur les chiffres 2022 et c'est comme ça qu'on peut avoir des comparaisons entre ce qui est comparable et sur une période comparable. Cette édition est absolument exceptionnelle parce que effectivement en 2022, les conditions étaient assez favorables de reprise sur le continent. Et on s'aperçoit, en cumulant les chiffres d'affaires des 500 plus grandes entreprises africaines, qu'on atteint un record tout simplement de 760 milliards de dollars cumulés. C'est le le montant le plus important qu'on ait jamais enregistré depuis plus de 20 ans où on fait ce classement. Ça s'explique en particulier par la flambée des prix du pétrole et du gaz qu'on a vu en 2022, notamment avec le départ du conflit en Ukraine. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans le classement avec donc d'abord près de 25 les entreprises qui sont les hydrocarbures, pétrole et gaz, qui représentent désormais 25% du chiffre d'affaires cumulé des 500, donc c'est énorme. Des bons exemples, on voit que dans le top 10, il y a énormément de ces entreprises. Bien sûr, la Sonatrach, qui est toujours donc, l'entreprise nationale algérienne qui est première du classement, comme toujours. Je note que Sonatrach avait pourtant très peu augmenté en 2022 sa production, seulement 2%, mais a quasiment doublé son chiffre d'affaires. Sonatrach représente en 2022 un tiers à elle seule du PIB algérien. Mais on a aussi d'autres entreprises, évidemment, pétrole et gaz, qui ont très bien performé, comme la société nationale nigériane NNPC ou la Sonangol, société principale en Angola de pétrole. Alors, au-delà des secteurs hydrocarbures, on a aussi une très bonne tenue du secteur des mines. Et ça, c'est une tendance également qu'on voit sur les dernières années, ce secteur qui prend de plus en plus d'importance. Ça se manifeste notamment par un bon exemple, c'est Kamoa Kakula. Vous avez déjà parlé l'année dernière, qui est la mine de cuivre développée par Ivanhoe Mines. Cette mine est rentrée il y a 2 ans dans notre classement. Elle est déjà aujourd'hui, cette année, 75e. Elle a fait plus 158% de chiffre d'affaires, c'est une mine de cuivre, et qu'elle devrait être dans le top 3 des mines de cuivre au monde très rapidement.
En tout cas, c'est un microscope assez intéressant, en tout cas le regard que vous portez sur l'évolution de ces bilans. Donc ces bilans prennent en compte les chiffres réalisés en 2022.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aussi on retrouve des pays qui sous-performent en 2022, notamment par exemple l'Égypte. Beaucoup d'entreprises égyptiennes ont souffert des deux dévaluations de la livre égyptienne en 2022, avec qui a perdu quasiment 57% de sa valeur. Et comme évidemment toujours pour pouvoir comparer ce qui est comparable, on convertit en dollars.
Alors, qu'en est-il des entreprises marocaines ?
Alors, les entreprises marocaines, d'abord, sont extrêmement bien représentées. Il y a 55 entreprises marocaines dans notre classement cette année. Donc, c'est plus de 10% des entreprises présentes dans les 500. Je parlais de l'Algérie juste avant avec Sonatrach qui représentait un tiers du PIB à elle seule de l'Algérie, ce qui caractérise le Maroc, c'est la grande diversité des secteurs. Il n'y a pas un secteur qui domine le reste. On voit des industries, par exemple, même automobile. On voit que le groupe Renault Maroc est la deuxième plus grosse entreprise marocaine en termes de chiffre d'affaires derrière OCP. On a aussi les télécoms avec Maroc Télécom. On a l'énergie, bien sûr, avec Africa SNTC, le commerce avec la Belgique, par exemple. On a l'électricité, le transport logistique avec la RAM. D'ailleurs, qui a fait une très bonne année en 2022, évidemment, puisque c'était la reprise après Covid, mais aussi Tangemed. On a de l'agro-industrie avec Cosumar qui devient d'ailleurs milliardaire en dollars en 2022. C'était quelque chose que cette entreprise avait annoncé d'ailleurs dans les colonnes de Jeune Afrique en 2018 comme une ambition, dépasser le milliard de dollars de chiffre d'affaires, ce qu'ils ont réussi à faire, notamment grâce à leur JV avec Vilmar, qui est parti depuis l'année dernière. On a aussi des secteurs comme l'informatique avec Intelsia ou le bâtiment, évidemment, avec Simar, Lafarge, SGTM. Donc, c'est ce qui caractérise vraiment ce pays par rapport aux autres pays africains qui ont tendance à être très concentrés dans un ou deux secteurs. C'est la diversité des secteurs et ça, c'est et aussi la progression du Maroc en général dans le classement.
Donc, on retiendra diversité des secteurs représentés, mais aussi les entreprises marocaines représentent 10% de ce... Alors, je parlais de chiffre d'affaires ou du nombre d'entreprises classées?
Alors, c'est 12% des entreprises classées.
10% des entreprises classées.
notamment, et la première d'entre elles, peut-être que je vous devance.
Ben, effectivement, vous, comme on dit sur le continent, vous m'avez marché sur la langue. Il y a l'OCP qui réalisait des bons intéressants et qui aujourd'hui fait son entrée dans le top 10 des plus grandes entreprises africaines.
Absolument. Donc OCP est aujourd'hui un géant. Tout simplement un géant du continent, puisqu'elle est la neuvième plus grande entreprise africaine, avec en 2022 un chiffre d'affaires en dollars qui flirte avec les 11 milliards de dollars. Mais ce n'est pas seulement une entreprise qui génère énormément d'activités, c'est aussi une entreprise qui génère énormément de profits, avec 2,7 milliards de dollars de profits en 2022. Alors évidemment, elle a bénéficié de conditions, d'un contexte international qui lui a été très favorable, avec une envolée des cours du phosphate qui a été provoquée notamment par la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie. Elle a beaucoup de concurrents russes, bien sûr, mais aussi les importations chinoises qui ont été très impactées par les différents confinements. Donc, un contexte très favorable pour OCP, et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs les résultats. 2023 montre une baisse de 20% du chiffre d'affaires, mais ce ne soit pas être interprété comme une contre-performance, mais plutôt parce que 2022 a été une année exceptionnelle. C'est très intéressant d'ailleurs à voir, et on fait un focus, un article spécial dédié à OCP à ce sujet, c'est que c'est une entreprise qui, au fur et à mesure des années, a entrepris une diversification assez étonnante. Alors évidemment, ils sont passés d'une entreprise minière à une entreprise agro-industrielle, à travers la transformation du phosphate en engrais, mais aussi, on le voit, et les Marocains le savent bien depuis quelques années, OCP devient une sorte de pieuvre avec des investissements dans l'éducation, évidemment l'université Mohamed VI Polytechnique, mais aussi l'intention de produire elle-même de l'énergie. Elle a 11 gigawatts de projets de développement de production d'énergie, notamment en particulier dans le solaire et l'éolien, mais aussi des projets dans l'hydrogène vert. Elle investit aussi dans l'hôtellerie, dans l'IA.
Donc, une sorte de diversification à l'image des secteurs représentés dans ce classement. Désolé, on est pressé par le temps, mais je ne peux m'empêcher quand même de vous poser une dernière question. C'est qu'on sent qu'au niveau du management de ces grandes entreprises africaine, qu'il y a eu beaucoup de mouvements, pour ne pas dire beaucoup de sang neuf en fait.
Absolument, absolument, il y a eu beaucoup de sang neuf. On dénombre sur les 12 derniers mois 60 entreprises parmi les 500 qui ont changé de CEO, donc c'est quand même très important.
De président, directeur général.
Exactement, de PDG. Et ce qui est assez, notamment on venait de parler des entreprises marocaines, et ce qui est étonnant, c'est que autant on voit un grand mouvement, autant au Maroc, pas du tout. C'est-à-dire que parmi ces 60 nouveaux CEO, il y a un seul nouveau CEO parmi les entreprises marocaines présentes, donc sur les 55, c'est Séverine Sbeg, qui a remplacé Matteo Rosanigo à la tête de Ciment du Maroc. Alors, pardon, je vous dis un seul, mais il y en a deux, en fait. Il y a Séverine Sbeg et il y a aussi Karim Helab à la tête de Otto Hall. Mais ça montre une très grande stabilité au niveau de la direction dans les entreprises marocaines. Au contraire, comme vous l'avez noté, il y a eu un grand mouvement, il y a eu beaucoup de mouvements de chaises musicales parmi les grandes entreprises africaines, avec 60 nouveaux CEO. Seulement 6 femmes parmi ces nouveaux CEO, ça c'est à noter, c'est un peu dommage et on le regrette. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu des mouvements aussi bien dans les entreprises qui allait très mal, par exemple comme Eskom, la société sud-africaine qui est dans une situation catastrophique, qui a perdu 1,4 milliard de dollars en 2022, ou est né au Cameroun qui va très mal. Mais on voit aussi des entreprises qui vont très bien, comme Dangote Cement, par exemple, qui a un nouveau CEO à sa tête qui a été nommé l'année dernière. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est des entreprises qui ont besoin d'un nouveau souffle, qui vont bien, mais qui ont besoin d'innover, ou alors simplement parce qu'elles ont un management, une façon de fonctionner où il y a énormément de changements à leur tête sans forcément qu'on comprenne pourquoi. Et là, je reviens par exemple dans le cas de la Solatrac, qui en 10 ans a changé 10 fois de PDG, sans qu'on comprenne toujours exactement pourquoi.
Merci à vous, Julien Wagner. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous êtes l'un des auteurs de ce top 500 des entreprises africaines. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci encore, au revoir.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.